Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC Football Show.
19h passé de 2 minutes sur RMC. On est avec Manu Amoreau jusqu'à 20h. On va parler football africain dans cette dernière heure. Elle va débuter le 9 janvier prochain au Cameroun. Forcément, le variant Omicron s'est invité, mais surtout la réticence, voire le manque de respect des clubs et de l'Europe envers cette compétition continentale majeure. Supporters marocains, algériens, camerounais, ivoiriens, appelez-nous au 32-16 pour réagir. Le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, sera avec nous. C'est la première fois que l'archipel des Comores se qualifie pour une Coupe d'Afrique des Nations. À 19h30, nous vous ferons revivre les meilleures interviews de Roten sans flamme. Et pour cette heure grandement dédiée au football africain, vous retrouverez l'entretien réalisé avec le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi. Puis enfin, pour terminer ce RMC Football Show, on va évoquer la Coupe de France, puisque les 16e de finale auront lieu ce week-end. Maxime Rey, le président de Vannes, qui recevra le Paris Saint-Germain dans 6 jours, sera notre invité. Le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live et l'appli Direct Studio, pardon, je vais y arriver, sont là pour intervenir. Le dimanche 9 janvier prochain va s'ouvrir à Yaoundé au Cameroun l'une des plus belles compétitions internationales de football, la CAN, 33e édition, la deuxième au Cameroun après 1974. Mais alors que l'épidémie de coronavirus décidément repart de façon exponentielle, la situation des joueurs africains suscite beaucoup de crispations dans les clubs. Manu, certains sont réticents à laisser partir leurs joueurs un mois, alors qu'ils savaient très bien à quoi s'en tenir. Manque-t-on de respect à l'Afrique ? 32-16 est ouvert. Hamza Ramani, de la rédaction, est avec nous. Bonjour Hamza.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes Hamza. Et à tous.
Les Salut cas Manu. De joueurs retenus par des clubs, alors que c'est une obligation de les libérer, ne manquent pas. La CAF, la Confédération africaine, a d'ailleurs fait, entre guillemets, une fleur aux clubs qui peuvent garder les joueurs jusqu'au 3 janvier inclus, soit 6 jours avant le début de la compétition.
Courtoisie de la CAF ou coup de force de l'ECA, l'Association Européenne des Clubs. Petit retour en arrière, il y a une semaine, l'ECA publie un communiqué annonçant que les joueurs évoluant en Europe ne seront pas libérés à la date initialement prévue, à savoir le lundi 27 décembre, donc hier normalement. Ce dimanche, la CAF, ou plutôt la FIFA, car c'est la FIFA qui a communiqué, allez savoir pourquoi, annonce que la date butoir est retardée d'une semaine. Cette décision est prise dans un esprit de bonne volonté, de solidarité avec les clubs concernés, bref. Vous connaissez l'idée de se communiquer et vous la comprenez. Donc la FIFA, qui a mis une pression monstre en coulisses sur la CAF pour annuler cette édition de la CAN, arrive-t-elle Pascal le grand fer ? Hypocrisie quand tu nous tiens.
Mais concrètement, pourquoi cette date du 4 janvier est problématique ?
Les faits, on y arrive justement. Le 3 janvier au soir, Manchester United, Wolverhampton, Villarreal et Séville joueront des matchs de championnat. Le Paris Saint-Germain en Coupe de France, point commun de ces clubs, tous comptent des joueurs convoqués pour la CAN. Alors on va prendre l'exemple de Séville, le club andalou. Séville se déplacera à Cadiz lundi soir à 21h15 pour la 19e journée de Liga. Dans ses rangs, trois internationaux convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations, trois Marocains, Yacine Bounou le gardien, Mounir El Haddadi et Youssef En-Nesyri les attaquants. Conséquence, ils manqueront les deux matchs de préparation du Maroc. Et ces joueurs, ils vont bien devoir rejoindre le Cameroun à un moment donné. Alors on a simulé le plan de vol pour les trois Marocains, le plus simple et le plus rapide, soyez concentrés. Départ de Séville le mardi, je dis bien le mardi, à 16h35. Arrivé à Yaoundé le mercredi à 20h50, 29 heures de vol, trois escales. On imagine un jeudi de récupération forcément pour les trois joueurs. Et donc, trois jours de préparation avant le premier choc du tournoi, lundi 10 à 14h face au Ghana. Et plus globalement, ce sont principalement trois sélections qui seront, pardon ?
Il n'y a pas des avions privés qui peuvent faire...
Mais toutes les fédérations ne peuvent pas se payer des jets privés.
Telle est la question.
Ouais, mais bon.
Telle est la question.
Si à un moment donné, si tu veux que la CAN soit valorisée, il faut que les instances de la CAN puissent faire les efforts.
Mais c'est un budget important, imagine, tu mets à disposition.
Ouais, mais bon, ça fait rien. Si tu veux avoir une belle édition, avoir des joueurs, t'imagines, 29h, tu as dit, 29h.
C'est ça, 29h.
De voyage. Mais tu vas arriver, ils vont être morts. Ils peuvent pas.
Ils vont être morts avant, ils vont être morts après.
Plus globalement, ce sont principalement trois sélections qui seront impactées par les matchs de club le lundi soir. Le Sénégal avec 3 joueurs, la Côte d'Ivoire avec 4 joueurs et le Maroc avec 5 joueurs.
Alors c'est quand même un casse-tête pour les sélectionneurs qui n'auront pas leurs joueurs appelés à disposition alors qu'on est bien au-delà des dates FIFA. Ils auraient dû libérer les joueurs là pendant les fêtes. Avec ce changement, finalement, on pourrait penser que les clubs ont gagné, non ? Ils sont contents d'avoir les joueurs plus longtemps.
Alors content, ravi, c'est un bien grand mot. Comme à chaque édition de la CAN en hiver, des joueurs sous la pression de leur club hésitent ou refusent de rejoindre la sélection. Un broglio autour du Marocain Ezzalzouli. Restera-t-il en Espagne ? Ira-t-il au Cameroun ? Barcelone jouera le 2 janvier. On imagine une réponse définitive autour du 3 ou 4 janvier. Autre jeune, Félix Afenagian, attaquant de la Roma, lancé par José Mourinho début de cette saison. Le jeune Ghanéen de 18 ans aurait refusé l'appel des Black Stars pour honorer lui aussi sa première convocation. Et enfin, Yacouba Djiga. Alors, vous ne le connaissez probablement pas. Défenseur remplaçant du FC Bâle. 3 petits matchs de championnat suisse cette saison. Lui aussi n'ira pas jouer la CAN pour le Burkina Faso. Sauf qu'au pays des hommes intègres, il y a un certain Aristide Bansé, ancienne gloire du football burkinabé et désormais manager général des étalons. Il envisage de saisir la CAF et la FIFA, car rappelons-le, un joueur refusant de rejoindre sa sélection pendant les dates FIFA peut être sanctionné et suspendu par l'instance internationale. La manière forte peut être la seule pour enfin se faire respecter par le monde du football. Le salut peut donc venir des anciens joueurs africains, Aristide Bansé, Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération Camerounaise de Football, et peut-être très bientôt Didier Drogba, lui aussi, a des ambitions en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup Hamza. Manu,
c'est un bordel sans nom tout ça, non ?
Mais est-ce que ça vient pas aussi que les Européens ne respectent pas la CAN ?
Ben, il respecte pas la CAN. C'est vrai qu'elle est mal placée. T'imagines, c'est le début de la deuxième partie du championnat un peu dans tous les pays européens. Et comme le disait tout à l'heure Amir, c'est il y a des matchs très importants. Alors laisser partir les joueurs à la CAN, mais comment ils vont revenir ? C'est ça aussi le problème, c'est que tu sais, tu pars en Afrique, tu sais pas comment ils vont revenir les joueurs. Est-ce que il y a toutes les conditions sanitaires qui vont être prises en compte et ça va être très strict. Mais moi, pour avoir connu un petit peu les Africains, de ça un peu ils s'en foutent. Hein. Donc, je sais pas, ça va être compliqué, difficile pour que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions.
On accueille Pape, supporter du Sénégal, des Lions, de la Teranga. Bonjour Pape.
Bonjour Pape. Monsieur.
Bonjour Pape.
Merci d'être avec nous. Ton avis, parce que la CAN, qui avait été placée lors de la dernière édition l'été, a été replacée l'hiver, parce que la FIFA a aussi changé des choses, notamment pour la Coupe du Monde des clubs. Et mais la CAN l'hiver, tout le monde le savait, tout le monde était au courant, Pape, finalement.
Oui, à mon humble avis, dès l'instant où les règles ont été déjà tissées très longtemps, il ne faut pas les violer. Il n'y a pas de respect. C'est un manque de respect total vis-à-vis aux Africains. Ce n'est pas normal qu'il y ait des règles qui ont été déjà tissées depuis très longtemps et la CAN ne débute pas cette année. C'est depuis Matusalem. Les règles de la FIFA étaient déjà tissées. Ils ont changé et puis, ce qui me gêne le plus, ils ont décidé, ils ont essayé, la FIFA a essayé d'annuler la CAN en quelque sorte. Mais bien les sûr. Africains ont été informés par la radio RMC. Même le président de la CAF a été informé par la radio RMC. Ils se sont défendus, ils ont essayé. Mais c'est pas normal, c'est du n'importe quoi. Surtout il n'y a pas de respect. Certes, c'est vrai. Les fédérations n'ont pas de sous, ce sont les gouvernements africains qui financent leur équipe nationale. Mais les Africains aussi se victimisent trop. On doit travailler pour être autonome, en quelque sorte, nos fédérations, pour pouvoir... parce que les clubs sont payeurs, hein. Ils sont payeurs. Et puis, ils ont un peu peur par rapport au... Parce que ce sont les joueurs africains qui animent presque tous les championnats. Ce sont les grands joueurs. Mais ils ont peur qu'ils aillent là-bas, qu'ils se blessent et en cours de championnat, où on n'a qu'à faire... pendant la Coupe d'Afrique, ils prolongent les trêves d'hiver plus longs pour qu'on puisse jouer la Coupe d'Afrique tranquillement. Ils retournent en forme. En général, les joueurs africains qui partent en Coupe d'Afrique en retournant à leur club, pour redoter à leur club, ça, c'est très difficile encore. Parce que les voyages sont très compliqués et tout est compliqué. Mais il
c'est vrai que c'est des problèmes de calendrier. On pourrait quand même harmoniser tout ça.
Mais c'est déjà fait, tout a été réglé.
C'est pas normal qu'on n'ait pas trouvé des solutions par rapport à cette CAN. Parce que le problème est qu'il va.
De règles.
Oui, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que les clubs européens, les grands clubs, vont arrêter de prendre des Africains parce qu'ils savent qu'au mois de février, au mois de janvier, au mois de février. Comment?
Mais ils sont bons. Ils sont bons.
Mais oui, ils sont bons.
Non.
Ou alors ils vont leur faire signer un contrat en disant que s'il y a un club, si tu es sélectionné, tu ne peux pas y aller.
Parce que les règles du travail en France sont ici en quelque sorte que les travailleurs sont protégés. Parce que les joueurs, ce sont des travailleurs qui travaillent en France aussi. Mais il y a les règles aussi.
Merci,
on ne peut pas les papiers du jour au lendemain.
Merci
beaucoup, mais ce n'est pas la sélection, malheureusement, qui paye le salaire.
Manu, s'arrête.
Ouais, oh, pardon.
Mais on voit effectivement que c'est... On en reparlera dans l'after qui arrive dès 20h sur RMC. Évidemment, c'est une question très importante qui touche à l'âme de tout le monde, les sélections. C'est le cœur qui parle. Et c'est vrai que de voir ces problèmes de calendrier comme ça, on va faire une Coupe du Monde fin novembre, début décembre, là, il n'y aura pas de souci. Alors que la CAN...
Ouais, tu vois, il faudrait voir s'il y a une compensation financière pour les clubs, parce que est-ce que c'est
ça
les clubs qui les payent pendant
cette fédération européenne?
Parce que c'est pas le club qui paye, qui doit payer le joueur quand il s'en va en sélection. Ça doit être soit la sélection.
Il y a toujours des petites indemnités, mais c'est pas à hauteur des fédérations aussi fortes que l'Angleterre ou la France.
Alors tu as le joueur qui part faire des matchs en Afrique, il peut se blesser, donc ça veut dire plus de rentabilité dans le club où il joue, et c'est le club qui le paye. Donc tu vois, c'est pour ça aussi que les clubs
raison que c'est un débat assez large. On revient dans un instant. Amir Abdou, le sélectionneur des Comores, première participation des Comores à la CAN, sera avec nous. Ne bougez pas.
RMC Football Show
avec Manu Amoro jusqu'à 20h. Le débat enflammé évidemment sur la Coupe d'Afrique des Nations et les réticences des clubs européens pour libérer les joueurs, tout simplement. On est également avec Hamza Rahmani pour évoquer tout cela, et on accueille un sélectionneur heureux puisqu'il a qualifié et il va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Amir Abdou, sélectionneur des Comores, est avec nous. Bonjour Amir.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, la préparation, vous en êtes où? Vous êtes déjà arrivé près du Cameroun, de Yaoundé? Vous êtes en camp pour préparer tout ça? Vous avez vos joueurs, où en êtes-vous?
On est actuellement à Djeddah. On est arrivé avant-hier. Moi, je suis arrivé il y a 3 jours de ça. Voilà, on est installé ici et les joueurs sont arrivés hier dans la matinée. Voilà, avant de démarrer nos premières séances, il fallait se faire tester. Donc le protocole qu'ils nous ont mis en place ici, donc on est testé tous les 2 jours. Et on entamera notre premier match amical le 31 décembre contre la Côte d'Ivoire. Et notre deuxième match qu'on finira le 4 pour partir sur Yaoundé le 4 au soir.
Manu,
est-ce que tu as pu récupérer tous tes joueurs? Ils sont tous en bonne condition?
Oui, il m'en manque 2. J'ai un joueur qui joue en Belgique là. Il est arrivé. Il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui. On attendait le retour de son test pour qu'il intègre le groupe. Et j'en ai 2 autres qui doivent arriver. Il y en a un qui joue aux États-Unis. Et un autre en Afrique du Sud, il doit arriver dans la semaine, donc on les attend pour qu'ils puissent compléter le groupe. Pour l'instant, on est un groupe de 25 joueurs pour l'instant. On attend les derniers qui arrivent.
Pour vous donner une idée sur l'équipe nationale des Comores, quelques têtes bien connues du championnat de France. On retrouve Ali Hamada, l'ancien gardien de Toulouse. Kassim Abdallah, qui a joué à l'Olympique de Marseille notamment. Youssouf Mchangama, qui joue à Guingamp et qui performe bien avec l'en avant Guingamp. Donc voilà un petit peu pour les noms. Il y a pas mal Yann Mohamed aussi à Auxerre. Beaucoup de joueurs de Ligue 2, de National et un petit peu partout en Europe. On parlait un petit peu des protocoles, notamment les tests, parce que évidemment les clubs européens pensent que rien n'est fait ou que c'est pris par-dessus la jambe. Test avant de partir, test en arrivant, c'est quoi un petit peu le protocole qui vous attend, le quotidien? Vous allez être suivi là pendant une semaine après l'entrée au pays?
Tous les 2 jours, comme je vous l'ai dit, on était testé avant de démarrer nos séances, et tous les 2 jours on sera testé avant de partir au Cameroun, hein. Donc c'est assez strict. On respecte, c'est tout à fait logique. Bon, on essaie aussi de faire attention ici On est dans une petite bulle, entre guillemets, au niveau des joueurs. Et puis, on avait déjà fait un travail en amont auprès d'eux, parce que c'est vrai que lors des fêtes, ben, beaucoup de personnes se mélangent, etc. Donc, la sonnette d'alarme était que, attention à vous, c'est votre première CAN, et si vous voulez participer, ben, faire attention avec la famille.
Et oui, parce que les joueurs africains, malheureusement, quand ils rentrent au pays, ils veulent faire un peu la fête avec tout leur famille autour.
C'est bien ça. Vous avez connu ça, Manu, hein.
Ouais, j'ai connu ça.
T'as vu un coup de main, Manu.
C'est bien. Ouais, un peu de temps, mais c'est vrai que c'est passionnant de s'occuper de ces sélections-là, parce que t'es toujours en train de rechercher des joueurs un peu de partout dans le monde, hein, pour pouvoir éventuellement former une équipe. Et c'est vrai, d'être qualifié pour la CAN pour la première fois, c'est un moment extraordinaire. Et c'est pour ça, et tu as raison, Amir, c'est de pas mettre en danger par rapport à aujourd'hui, à ce virus qui nous emmerde de partout, à que tu aies des joueurs qui contactent le virus et qui soient malades pendant cette CAN. Ça serait bien dommage pour la sélection des Comores.
Justement, bien sûr. Hamza Rahmani, Amir Abdou, le sélectionneur, est avec nous en direct sur RMC dans l'intégral show. Une question d'Hamza Rahmani.
Oui, on parlait des joueurs, on parlait tout à l'heure des joueurs éventuellement qui avaient refusé la sélection. Pour les Comores, on parle de deux noms, Omari, le défenseur central de Rennes, et Zaïdou Youssouf, le milieu de terrain de Saint-Étienne. Première question, est-ce qu'il y a eu un réel intérêt de votre part pour les amener à cette Coupe d'Afrique? Et deuxième question, si c'est le cas, est-ce que finalement, de ne pas les avoir, ce n'est pas un avantage? Parce qu'il va falloir, ou il aurait fallu, intégrer deux nouveaux joueurs dans le 11 sur une compétition internationale, où en plus, on ne l'a pas dit, mais vous avez un groupe plutôt compliqué avec le Gabon, le Maroc et le Ghana. Quelle est la situation des Comores par rapport à cela?
Bah, c'est comme vous l'avez dit, nous on a essayé de les convaincre. On n'est pas maître de leur décision. Il y a plusieurs facteurs, paramètres que ces joueurs-là ont choisi de rester dans leur club et de jouer pour leur club, et de pas prendre de risque de jouer pour une sélection et pour leur entre guillemets leur pays d'origine, quoi. Donc c'est leur pays de leurs parents, et voilà, nous on a essayé de faire le maximum de pouvoir les avoir à nos côtés, voilà, et ça a été un refus, voilà. Et puis ce qui est le paradoxe, il est que ce sont des joueurs je parle d'Omari qui a changé de direction, et qu'au départ il était prêt à venir, et puis je pense que au fil du temps qu'il est devenu titulaire avec Rennes, et Rennes a fait le nécessaire pour qu'il reste en club, quoi.
Ouais, mais tu aurais pu éventuellement le convoquer et faire jouer la FIFA par des termes du contrat avec la fédération. Donc, mais t'as pas voulu aller au clash avec eux, quoi.
Non, on veut pas aller au clash, on veut pas. Après, ça sert à rien, parce que soit vous venez jouer pour votre patrie, ou alors vous avez d'autres prétentions de jouer en équipe de France, ben vous prenez de l'autre direction. Donc voilà. Donc nous on a fait cette proposition, et c'est pas le seul. Il y a d'autres joueurs qui devaient nous rejoindre aussi, qui jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2. On fait la même chose. Après bon, c'est mal pour un bien. On a un groupe assez qui se connaissent depuis 8 ans, qui travaillent ensemble depuis des années, assez homogène, il y a un groupe assez solide qui a vraiment une fratrie dans cette équipe là, et voilà, on a des valeurs, et on va jouer avec nos armes, et je pense que on est capable aussi de faire de belles choses, parce que on peut dire oui, c'est un groupe de la mort, mais on a aussi notre mot à dire, et on part pas là-bas en victime. Hein.
On va parler du groupe. Amir Abdou, le sélectionneur des Comores, est avec nous. Pour revenir sur la pression des clubs, est-ce qu'elle n'a jamais été aussi forte pour dissuader des internationaux africains de venir? Vous le ressentez un peu dans les échanges que vous pouvez avoir? Là, il y a un point presque critique qui a été atteint.
Ouais, mais bien sûr. Mais après, le problème, il est que cette CAN-là, elle a été reportée. Le Cameroun, elle devait se jouer au mois de juin, et pour des raisons climatiques, ils l'ont mis en janvier. Voilà, c'est des décisions des instances de la FIFA, de la CAF, et il faut s'en tenir. Après, il faut savoir aussi que la CAN, si je me trompe pas, il y a des années de ça, elle se jouait en janvier, et ça a toujours été les mêmes problématiques. Donc les clubs sont au courant et sont au courant que des joueurs africains qui sont internationaux, ils partiront à cette période-là. Donc simplement, c'est que nous on est bloqué par rapport à ça. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Des gens qui parlent pour parler, mais forcément, ben chacun prêche pour sa paroisse et ça peut blesser pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui rentrent en compte et forcément, ben ça touche beaucoup de gens et je pense que cette CAN-là, il y a 15 jours de ça, on savait pas si on allait la jouer encore. On savait pas encore si on allait la jouer parce que il y a eu des choses qui ont été dites, des décisions qui ont été prises. Voilà, il y a une pression aussi des clubs anglais. Voilà, c'est de toute façon, on va la jouer. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains, comme je l'ai entendu, il y a certains clubs en Angleterre qui, avec la loi que la FIFA a pris la décision, mais de les libérer plus tard. Ben voilà, c'est leur décision, mais chacun prendra ses responsabilités.
Amir, un mot sur le sportif, puisque le temps tourne. Vous êtes dans un groupe que certains ont qualifié de la mort, hein. Groupe C, Maroc, Ghana, Gabon. Premier match le 10 janvier à 20h à Yaoundé contre le Gabon. Mais c'est aussi un groupe, j'allais dire, pour se faire plaisir, mais qui fait saliver quand même.
Oui, c'est de belles équipes, des équipes que nous on a rencontrées sur des qualifications, qu'on les connaît toutes, ces équipes-là. Et forcément, mais ça nous donne envie et il nous tarde de rentrer dans la compétition. Et pour l'instant, on est en train de se préparer à un stage ici en Arabie Saoudite et de façon à être programmé et pour être performant pour la suite de la compétition.
Merci beaucoup, Amir Abdou, le sélectionneur des Comores.
Et bonne chance.
Merci beaucoup.
Et on ne manquera pas de parler de vos aventures. RMC qui aura un envoyé sur place, Timothée Mémon, pour suivre cette CAN au Cameroun. Donc premier match pour les Comores que l'on suivra avec évidemment beaucoup d'amitié le 10 janvier à 20h contre le Gabon. Merci beaucoup Amir Abdou. Manu, tu ne bouges pas. On va tout de suite retrouver les plus beaux entretiens de Rotten sans flamme. Parce qu'il y a eu du grabuge, il y a eu des prises de parole, de la colère. Et ça sera la colère de Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie. À tout de suite.
RMC Football Show.
Arnaud Balagon.
Jusqu'à 20h avec Manu Amoros. Dans un petit quart d'heure, on parlera Coupe de France et Vannes qui va recevoir le Paris Saint-Germain lundi prochain, 16e de finale de Coupe de France. Reportage sur place avec Xavier Grimaud et le président Maxime Reiss sera avec nous pour nous donner les dernières infos, les préparatifs. Eux, ils sont concernés par la jauge. Ils devaient accueillir 7000 personnes au stade de la Rabine et il n'y aura que 5000 personnes. Mais avant, pendant les périodes de fête sur RMC, nous vous proposons de revenir sur les grands moments de la première partie de saison dans Rotten sans flamme que vous retrouverez dès lundi. Le 14 octobre dernier, Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, était l'invité de Jérôme Rotten, accompagné de Nicolas Anelka et de Pascal Olmeta. Un entretien brûlant où l'homme fort des Fenech avait fait part de sa colère sur le cas Andy Delors qui a décidé d'arrêter la sélection. Un moment fort et unique vécu dans Rotten sans flamme.
Déjà, félicitations Jamel, hein. Je vais commencer comme ça pour tout ce que tu as apporté dans cette équipe d'Algérie depuis bon nombre de mois maintenant. Et j'ai eu l'occasion de te croiser une fois et là je te le redis devant tout le monde, vraiment t'as fait un travail remarquable.
C'est gentil, merci bien.
Alors on va peut-être laisser la parole d'abord à Nico, oui, puisque t'es celui qui connaît le mieux Jamel. Vous étiez au PSG, c'est ça, même si vous avez 3 ans d'écart, c'est ça, c'est la formation du PSG que vous êtes croisé au début?
Ouais, moi bon, en fait, je sortais de Clairefontaine et je suis arrivé au PSG et Jamel était déjà installé avec la N2 et donc bon, c'est mon grand frère, hein, on m'a fait grandir dans cette équipe, on a appris beaucoup de choses ensemble et c'est comme ça qu'on a, enfin je crois que lui il a signé pro et moi par la suite je suis parti à Arsenal, mais on a toujours gardé des contacts vraiment spéciaux entre nous depuis des années, même si on se parle pas très souvent, mais à chaque fois qu'on se parle, on se parle une heure ou deux heures à chaque fois au téléphone.
Ah ouais.
On en parlait ensemble il y a presque huit mois de ça et c'est toujours un grand plaisir de parler avec lui.
Mais quand vous parlez une à deux heures, le temps de parole est égal ou c'est Jamel surtout qui parle et Nico qui écoute? Je connais pas autant Jamel, mais j'imagine le truc, quoi.
Nous deux, on parle, on a beaucoup de choses à se dire puisqu'on, on se parle pas, comme j'ai dit, on se parle pas souvent, donc on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se raconter et c'est toujours un plaisir.
Jamel.
Bah écoutez, déjà Nico, salam.
ça fait un bail. Comme il a dit Nico, il n'y a pas besoin de. On a un peu sur certains points, on a un peu la même vision des choses et d'amitié, même de la fraternité. On n'est pas obligé de se parler tous les jours pour partager, pour avoir une certaine relation. Donc on s'est connus, comme vous avez dit, au centre de formation. Voilà, Nico est arrivé avec toutes ses qualités, tout son talent que le monde connaît. Nous, on était juste admiratifs de ça. Il était en avance sur son temps. Et puis voilà, et moi j'apprécie plus le footballeur évidemment, et puis surtout l'homme. Voilà.
Alors Jamel Belmadi, ouais. C'est l'occasion de revenir sur tous les sujets d'actu liés à la sélection algérienne.
Ouais, un petit peu, ouais, Jamel, déjà, t'es content de ce que tu vois de la sélection, de l'approche après la formidable victoire en Coupe d'Afrique, bien sûr, de ce que tu leur demandes, tu sens une réelle progression de ton groupe?
Oui, on répète souvent et on le voit assez souvent, c'est pas tout le temps, c'est pas une science exacte, mais on voit que souvent qu'après un grand sacre derrière ça il y a souvent un échec et souvent un
relâchement,
un relâchement dans les performances un peu partout. Je prends souvent l'exemple, il y a qu'à voir l'équipe de France dernièrement, championne du monde, elle va au championnat d'Europe, elle sort en 8e je crois, donc contre la Suisse. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, l'Allemagne sort au premier tour en 2018. Bref, il y en a plein des exemples comme cela. Donc ça, on a fait attention à justement ne pas tomber dans cette problématique.
T'as mis quoi en place pour pas tomber dans ce relâchement-là?
Justement, je les ai pas lâchés. J'ai pas lâché mes joueurs. Donc,
on a fait
attention à ça.
Excuse-moi, je te coupe, mais t'as toujours les mêmes, le même groupe, ou t'as essayé de rajeunir un peu, de rafraîchir un peu?
Non, on est un des groupes déjà sur cette CAN. On a été un des groupes les plus jeunes de la CAN. On a toujours 2-3 joueurs, avec une certaine expérience. Mais si on regarde la moyenne d'âge, on est une des équipes les plus jeunes. Même sur cette phase de qualification, on est aussi une équipe, en tout cas des équipes du top 10. On est parmi des équipes les plus jeunes. On a pas mal de joueurs qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Bon, vraiment pas mal de jeunes. On a insufflé du sang frais au fur et à mesure depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le même effectif à 100%. Il y a eu du monde qui est arrivé, du monde qui se sont j'irai pas arrêté, mais voilà, la concurrence elle est là, la concurrence il y a une concurrence interne qui est féroce et voilà, personne veut rien lâcher, tout le monde veut être dans ce groupe, tout le monde veut aller en Coupe du Monde, et voilà, personne veut rater cette génération, c'est une belle génération. Donc, non, c'est pas exactement le même groupe. Il a évolué.
D'accord.
Mais on va dire qu'il y a beaucoup de cadres qui sont quand même là et une ossature qui est quand même là.
Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la sélection algérienne avec l'affaire Andy Delors. Donc, on va en parler avec vous, Jamel. Donc, je résume rapidement les faits. Avant le dernier rassemblement, il vous a dit, vous l'avez dit en conférence de presse, qu'il voulait davantage se concentrer à son club parce qu'il y avait une nouvelle concurrence à Nice, qu'il était dans un nouveau club, donc nouveau challenge pour lui à 30 ans. Il a aussi ajouté dans une autre interview que c'était aussi lié cette décision à son statut en sélection. Parce qu'il n'est pas titulaire à part entière. Alors, est-ce que vous en avez toujours gros sur le cœur? Est-ce que vous êtes toujours un peu énervé après lui?
Bon, déjà, l'énervement dans ma position, c'est tout relatif. Il faut plutôt être objectif. On peut dire les choses avec une forme de véhémence ou avec une forme de... être un peu direct, mais tout en étant très, très lucide et sur la situation. Donc... c'est pas un énervement personnel, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis coach, il est joueur. Moi, je sélectionne. Lui, c'est un joueur algérien, sélectionnable. Donc, on est plus dans cette donnée-là. Alors, moi, d'abord, avant toute chose, comme je l'ai dit en Algérie, à ma conférence de presse, les choses, le linchal se lave en famille, généralement. Et les relations que je peux avoir avec les joueurs et les différentes discussions qu'on peut avoir, généralement elles restent entre nous. Maintenant, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le groupe, si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien, il marque des buts, il est compétitif, c'est un bon joueur du championnat de France, à partir du si on le convoque pas, il faut donner des raisons. Moi j'aime bien aller dans le technique et tout ça, il y a pas de problème, on peut en discuter. Donc il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, si aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui vous avez insisté pour qu'on puisse, avec toujours beaucoup de plaisir, de discuter ici. Il y a une grosse communauté algérienne. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, si je vous en parle à vous, puisque je dis qu'il faut laver son linge sale en famille, c'est que justement lui, il est venu s'adresser en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première chose. Il n'y a pas de problème qu'il en parle en France. Il joue dans le championnat de France. Il a la double nationalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà à la presse algérienne et qu'il leur dise voilà ce qu'il en est. Mmh. Et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qu'il m'a écrit dans un premier temps. J'ai dit on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour donner pour une décision comme celle-là, ça s'écrit pas. C'est on appelle les personnes ou on les voit et on leur dit les choses en face. C'est une décision qui est assez lourde de sens.
Vas-y.
Je vais mettre déjà les choses dans leur contexte et bien pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement, il a dit j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population algérienne, qu'il a ouvert ses bras et qu'ils l'ont aimé, je sais pas s'il l'aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour son arrivée. Et s'adresser directement ici à la presse française, je vous dis, ça ne pose pas souci, mais d'abord on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est l'équipe nationale d'Algérie qui s'agit. Donc dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, et que je privilégie le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que vous avez rajouté vous, à savoir parce qu'il y a un problème parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mais il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi, tu veux de la concurrence, tu veux, t'acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc là, il y a un non-sens total. Nous, on s'estime pas être les plus beaux et les meilleurs et être au-dessus d'un club comme Nice. On n'est pas là. Mais là, on a affaire à un club et on a affaire à une nation. La concurrence que tu acceptes et pour laquelle t'es venu défier entre guillemets à Nice, faut l'accepter aussi en équipe nationale. Donc il y a un non-sens là-dessus.
Il dit qu'il veut mettre les équipes nationales entre parenthèses un an. Est-ce qu'il pourrait revenir de l'or?
Donc ça, c'est la grosse blague de l'année. Ça, il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou de le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. C'est il y a qu'est-ce qui se passe dans un an?
Oui.
Dans son esprit, il y a quoi dans un an?
Il y a la Coupe du Monde. Voilà.
Donc nous on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite comme petite mariée comme ça là et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais, ça faut la faire.
Donc ça veut dire
ça c'est doublement nous manquer de respect.
J'ai compris, Djamel, ça veut dire que c'est fini pour lui.
Non, mais moi je suis pas éternel en équipe nationale d'Algérie.
Avec vous
ça paraît compliqué.
Mais moi je veux pas qu'on aille
après le raisonnement tient la route.
Vous comprenez ce que je vous dis quand même.
Oui, bien sûr.
Vous les joueurs que ce soit Eric, tiens je te passe aussi je vous ai passé tout le bonjour, je passe spécialement aussi à Eric qui était mon directeur sportif. Donc Eric, toi en tant que joueur, toi Jérôme en tant que joueur, est-ce que tu peux l'accepter?
C'est clair, ça tient la route.
Joueur algérien. Voilà.
Après, Djamel, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi j'ai eu tendance quand j'ai appris cette histoire-là à défendre de l'or dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux, il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, là où il est maladroit, et là je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider en effet de mettre un trait sur la sélection. Tu peux pas dire un an et puis dans un an on verra, je reviens. Ça, là on est d'accord. Maintenant, après quand tu me parles de concurrence, je sais pas les rapports que t'avais avec Andy Delors. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir ce qui devait passer, le cap qui devait passer pour entrer en concurrence. Parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon il jouerait jamais dans la sélection.
Ok. Donc la question est bien longue.
Non, excuse-moi.
Et je vais essayer de te répondre.
Non,
elle est bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner les. Parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission,
oui.
Je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec plaisir. Donc, je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à.
Bah voilà ce que
ça.
J'ai dit.
Donc, ouais, ok. Ouais, donc, je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore mieux comprendre. Moi, je pense déjà, je vais te donner. C'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position de donner de conseils, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme. Mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football parce que t'as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs, tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention parce que là j'ai bien entendu ce que t'as dit.
Et
il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour balancer. Pour après, c'est pour.
Mais quel est le problème dans le traitement de Jérôme là?
Alors, je vais te dire le problème. Donc maintenant, on y arrive. Donnez-moi le temps de.
Oui, bien sûr,
de vous répondre. Donc, quand tu dis, par exemple, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc. Ok. Donc, il y a des joueurs, il y a des, par exemple, un Giroud, il a, je sais pas quel âge, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internationaux.
Oui, c'est vrai.
Sur un certain âge. Voilà. Et quand on arrive à une Coupe du Monde et que t'as 30 ans, hein, tu te dis, toi, avant une coupe du monde, bon, là, je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite, on n'a pas envie de convaincre des gens, leur dire, eh ben, tu veux pas aller faire une Coupe du Monde. Mais non, s'il le sent pas comme ça, le mec. Mais le truc, c'est, tu viens pas dire des choses comme tel qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là, il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice. Mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Il y a un mensonge.
En fait, Jamel, ensuite, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie. Et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là.
Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice.
Oui.
Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit-là. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui.
Vas-y, dis-moi.
Et lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur ça, je vais vous donner, j'ai pas normalement à vous le donner, j'ai pas à me justifier, mais je vais vous le donner, pas à vous mais aussi à la communauté algérienne. Andy Delors, on est 3 attaquants, ils sont 3 attaquants. Vous avez dit, il a fait 11 matchs, sur 11 matchs il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs, un peu plus d'un tiers des matchs. Donc la plupart du temps je joue qu'avec un attaquant, la plupart du temps, et il y en a 3. Il y a Bardad Bounedjah, il y a Islem Slimani et il y a Andy Delors. Donc Si on partage le temps de jeu, ils ont quasiment à peu près le même temps de jeu. Après, avant ça, il y a eu une CAN. Il a débarqué le jour de la CAN, quasiment. Le jour de la CAN. Il est venu un cadeau du ciel. Donc, quand tu dis, par exemple, il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN. Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu service, peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Il a fait des vidéos de partout. Il a été faire ses papiers de partout, de tout seul. Il a, jusqu'à la dernière seconde, le gars, il nous a pas lâché.
A enflammé Jamel Belmadi, les plus belles interviews de Rotten sans flamme à retrouver entre 18h et 20h. C'était chaud, hein, Manu?
Ah, c'est super intéressant ce qu'il dit, hein, parce que on met toujours en avant le joueur par rapport à ce qu'il veut et ce qu'il entend de la sélection ou du club, mais il faut laisser aussi les sélectionneurs ou les entraîneurs s'exprimer, et là il s'est exprimé totalement par rapport à la situation de Delors.
L'Algérie qui va démarrer sa CAN le 11 janvier face au Sierra Leone. Ils sont dans le groupe de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire, les tenants du titre algérien. On revient dans un instant, on va arrêter de parler Afrique, malheureusement, parce que c'est toujours avec grand plaisir de parler de la CAN et du foot africain. On va parler Coupe de France avec Van, son président Maxime Ray sera avec nous. Van qui va recevoir le Paris Saint-Germain dans 6 jours.
RMC Football Show.
Arnaud Valadon.
Le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Manu Amoros. On parle Coupe de France. Elle revient, Dame Coupe de France, dès le week-end prochain. Non pas en 32e de finale, comme il est coutume généralement, hein, chaque premier week-end de janvier, mais un tour plus tard, en 16e cette saison. Au tirage au sort, Vannes, club de National 2, a hérité du Paris Saint-Germain. Un événement pour la préfecture du Morbihan. Et le président du VOC est avec nous, Maxime Rey. Bonjour.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Xavier Grimaud, correspondant Grand Ouest pour RMC, est également là pour nous accompagner. Salut Xavier.
Bonsoir à tous.
Salut Xavier.
Président, ne bougez pas, puisqu'aujourd'hui, Xavier, tu es allé à la rencontre des Vannetais qui se préparent pour l'événement de la saison de l'année, la réception du Paris Saint-Germain lundi à 21h10. Le stade de la Rabine ne fera pas le plein à cause de la jauge qui réduit de 7000 places à 5000 spectateurs, mais la fête se prépare quand même dans la bonne humeur et les joueurs, Xavier, ont repris l'entraînement aujourd'hui.
Oui, les Vannetais étaient de retour sur les terrains ce matin après 8 jours de trêve, 8 jours de repos depuis le match et la qualification lors des 32e de finale à Wascal pour souffler un petit peu, passer les fêtes de Noël. Et le rendez-vous était donc ce matin à 9h30 au stade du Pérénaud, le centre d'entraînement du VOC, le Vannes Olympique Club. Il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de chambrage, notamment en voyant notre caméra dans les vestiaires et dans la salle de musculation pour l'échauffement.
Ah, y'en a, ils bossent comme les chameaux aujourd'hui, hein. Ouais. Ah, ça bosse dur, hein.
Allez. Voilà, ça se marre parce que les médias, évidemment, ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Ils vont en voir défiler beaucoup cette semaine, les Vannetais. Preuve que ce qui s'annonce est spécial pour eux. Un 16e de finale déjà pour un club de National 2, c'est spécial. Et face au PSG, évidemment, qui plus est. 10h, les 23 joueurs du groupe prennent place dans des minibus. L'entraînement est délocalisé à Plescop, à une quinzaine de minutes sur les pelouses du stade Pérénaud étant détrempées par les pluies des derniers jours. Arrivé sur place, c'est parti. 1h20 de séance sous les consignes de Pierre Talmont, l'entraîneur.
Du milieu, vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Vous vous changez de rectangle quand vous voulez au bout de 4 passes. Figé. Donc, n'oubliez pas, les appuis, un grec, si ça change, ouais. Vous accompagnez. Ah, vous récupérez.
Entraînement dynamique, hein. Avec ballon, on sent les joueurs impliqués, motivés, évidemment comme jamais par le match qui les attend. C'est comme ça depuis le tirage au sort, ce que résume bien le défenseur Alexandre Lavenant.
On est dans un super état d'esprit, hein. Là on commence vraiment à réaliser, au départ on est un peu dans l'euphorie, on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe et puis en plus on était tous repartis un peu en vacances, donc quand on a appris la nouvelle on n'était pas forcément ensemble, là le fait d'en reparler tous ensemble c'est vraiment super, on a hâte, on commence à vraiment se préparer, à se concentrer aussi en même temps, mais c'est vrai que dans un coin de notre tête c'est quand même extraordinaire, donc on souhaitait une grosse équipe pour finir entre guillemets, même si on y croit toujours, mais on s'est dit une grosse équipe à domicile ça serait top, donc là le PSG c'est vraiment ce qu'on pouvait rêver de mieux, ouais.
Ce qu'on pourrait rêver de mieux, notamment pour plusieurs joueurs vannetais, parce que beaucoup, enfin quelques-uns en tout cas, viennent de la région parisienne, c'est notamment le cas de l'attaquant Sébastien Persico.
Alors je sais pas si pour tout le monde c'est le match rêvé. Après moi en tant que supporter parisien, c'est vrai que je suis super content de jouer Paris. Je les regarde quasi tout le temps, dès que je peux je les regarde. Donc du coup c'est vrai que là de pouvoir le jouer, bah on est plutôt très content. Puis on est fier parce que aussi on joue pas que pour nous, on joue pour nos proches. C'était aussi c'est un moment de joie pour le club. Donc du coup c'est vrai que c'est un très très beau moment à vivre.
Mais alors, avec quel objectif pour les Vannetais ? La qualification, bien sûr, pour Jordan Henry, le milieu de terrain.
Et pourquoi pas, je dirais. Pourquoi pas ? De toute façon, on est compétiteurs dans l'âme. Hein. On va essayer de faire le mieux possible, de les faire douter un maximum. Et puis pourquoi pas une séance de tir au but ?
Une séance de tir au but avec un petit sourire en coin pour Jordan Henry. Tous les joueurs, sans exception, m'ont dit ça, parce qu'avec cette nouvelle règle sans les prolongations, ça peut effectivement, entre guillemets, faciliter la tâche. Les Vannetais auraient donc bien tort de ne pas croire en leur chance. Le club de Vannes est en plus un club qui a de l'ambition pour l'avenir. On va en parler avec son président. On se souvient que le club avait connu le monde professionnel, la Ligue 2 en 2008, même une finale de Coupe de la Ligue en 2009, avec comme joueur un certain Pierre Talmont, aujourd'hui entraîneur. Le club est redescendu après un dépôt de bilan en 7e division. Il remonte étape par étape. Et bien qu'il est en National 2, le club n'a en ses rangs que des joueurs qui vivent aujourd'hui du football, nous explique Pierre Talmont.
Oui, tout à fait. On a une dizaine de fédéraux, c'est-à-dire des joueurs qui sont salariés au club. On a des étudiants, on a des éducateurs au sein du club. Donc j'ai à ma disposition une vingtaine de joueurs. pour s'entraîner le matin ou l'après-midi. Donc ça, c'est quand même une chance pour un entraîneur d'avoir à disposition ses joueurs. Et on s'entraîne aussi dans des bonnes conditions. Donc Van se doit d'être dans le haut du tableau en National 2 et à court terme de retrouver la N1 et le monde professionnel dans quelques années.
Et les Bretons goûteront à ce qui se fait de plus haut en France lundi prochain. Tout le monde espère bien sûr que ce sera face à la grosse équipe du PSG avec ses stars comme l'attaquant Taylor Salibur.
Moi, je veux jouer contre les meilleurs, hein, donc j'espère qu'il y aura Messi. Hein, moi, franchement, j'aimerais bien jouer contre lui. Donc voilà, on espère se confronter aux meilleurs joueurs. Après, si c'est l'équipe BSC, ça reste quand même des très très bons joueurs. Donc voilà, on va prendre ce qui va venir et puis on va essayer de voilà, comme tu dis, de prendre du plaisir.
Rendez-vous dans 6 jours à la Rabine. D'ici là, les Vantais vont s'entraîner tous les jours avec une mise au vert la veille du match dans un hôtel de la ville. Tout comme les grands, comme le PSG.
Le reportage depuis la préfecture du Morbihan de Xavier Grimaud. Maxime Rey, le président du club, est avec nous toujours. Maxime, là, quand on voit le début de séance pour la reprise, la mise au vert, pas question d'arriver la fleur au fusil lundi prochain.
Non, clairement. Moi, c'est ce qu'on a pu discuter avec les joueurs. Il y a un match de football à jouer. Il y a toute une fête qui s'organise autour. Donc, on y reviendra peut-être avec des restrictions maintenant qui sont importantes. Maintenant, on a un match de 90 minutes à jouer. Le résultat n'est jamais inscrit, je dirais, avant le début du match. Et on a une histoire. Voilà, tout match de foot est une histoire. Donc, on espère qu'elle soit belle et en tout cas qu'elle soit, comment dirais-je, chargée de suspense.
Manu Amoros, une question pour le président du VOC.
Oui, bonsoir président. Vous avez raison, c'est un match très important et qui va marquer sûrement les joueurs de rencontrer cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, leur seul conseil que je peux leur donner, si je peux me permettre, c'est qu'il faut pas qu'ils les regardent jouer. Il faut jouer parce que, comme vous avez dit, dans un match de football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et l'important, c'est de prendre ce match-là dans le bon côté des choses. Ne pas les regarder jouer au football, jouer comme ils le savent, pour essayer de décrocher cette qualification qui serait très importante pour eux.
Tout à fait. Et ça serait mal connaître Pierre Talmont, l'entraîneur, qui est un vrai compétiteur. Je le suis aussi. Et on a bien l'intention de vendre chèrement notre peau. Et on essaie de préparer ce match vraiment dans les meilleures conditions. Et un des premiers sujets, ça a été de jouer à la Rabine. Parce que forcément, on a un contexte extraordinaire en face de nous. Et ce qu'on voulait, c'est que les joueurs évoluent dans un cadre ordinaire. Donc, on sait qu'on a très peu de chance. Maintenant, cette chance, si elle existe, elle est à la Rabine et certainement pas dans un stade de 30 000 places. Les joueurs auront leur repère, ils joueront le match qu'ils ont à jouer, ils le joueront sérieusement. On sait qu'on a un adversaire qui est, comme je le dis, un col hors catégorie, si on était autour de France. Voilà, c'est pas une équipe de Ligue 1, c'est un top 5 mondial, voilà, même avec une équipe un peu modifiée, parce que je ne pense pas qu'on aura une équipe B, je ne pense pas qu'on aura non plus toutes les stars, mais on aura une équipe qui sera très très costaud en face, et comme je dis, on a un match de football à jouer, et on se mettra dans les meilleures conditions, et avec des petits objectifs, ne pas être ridicule, après essayer de repousser l'échéance, et si on est capable de les faire douter, qui sait, sur un fait de jeu, sur des temps morts, voilà, essayer de jouer crânement notre chance.
Maxime Rey, le président du club de Vannes qui reçoit le Paris Saint-Germain lundi en Coupe de France, est avec nous. Président, quand vous avez entendu hier les annonces de Jean Castex, vous êtes le premier match de foot concerné par la jauge qui sera appliquée dès le 3 janvier, donc 5000 places limitées. À la Rabine, vous comptiez quoi faire 7000 places, ça va avoir un impact forcément. Aujourd'hui, c'est un petit peu digéré.
Oui, alors la première réaction, c'est forcément la déception. Maintenant, elle est passée assez vite, puisqu'on se rappelle qu'on joue quand même le PSG chez nous devant notre public. Alors forcément, un public réduit. Vous avez mentionné la jauge de 5000. La capacité du stade est de 9600. Bon, cette capacité avait été revue à la baisse, notamment par rapport aux contraintes de sécurité et la réception des supporters parisiens, puisqu'on n'a pas de parcage visiteur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a neutralisé une tribune entière, la tribune sud, donc 2500 places. Donc voilà, donc on était, comme vous le mentionnez déjà, à 7000 places. Bon, voilà, moi je pense que c'est un moindre mal. On aurait pu avoir un huis clos ou, par exemple, un couvre-feu à 22h ou même à 23h. Pour nous, ça voulait dire aussi huis clos. Donc on se contente de ces éléments-là. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, on a un contexte qui est compliqué de manière générale, et ces mesures visent à protéger la population. Donc on s'y plie volontiers.
Et le Paris Saint-Germain ne voulait pas vraiment jouer à la Rabine. Ils auraient préféré notamment le Moustoir, où pourtant ils ont eu une petite mésaventure avec ce match nul juste avant la trêve. Faut expliquer la Rabine. On est en plein centre-ville de Vannes, juste à côté du port. Ça vous a un petit peu agacé de voir le PSG dire non, mais la pelouse que vous partagez avec le club de rugby qui est en Pro D2, non, ça va pas, de voir le PSG, voilà, faire un peu le forcing pour éviter de se retrouver dans la rabine qui a, mine de rien, un peu l'apparence d'un petit traquenard. En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de faire. Ça vous a un petit peu agacé ou pas?
Pas forcément, je peux comprendre. Voilà, on a affaire à un club professionnel qui est vraiment dans l'élite mondiale. Je pense que le stade de la Rabine n'est pas très connu, je dirais, au niveau national. Après, en Bretagne, tout le monde sait qu'on a un hybride de grande qualité. On a le rugby qui évolue en Pro D2, qui est un peu la tête d'affiche à Vannes, et puis le VOC aussi qui utilise le terrain. Et le terrain encaisse sans problème tous les week-ends, ou régulièrement en tout cas, les deux équipes. Donc voilà, donc on a vraiment un stade de qualité. On a une pelouse de qualité. Et d'ailleurs, la fédération et la préfecture ne s'y sont pas trompés. Ils nous ont validé, comment dirais-je, ce stade. Donc maintenant, moi, comme je le disais, c'était un enjeu joué à la fois pour les Vannetais et pour qu'on ait déjà les meilleures conditions pour faire un match de foot compétitif. Donc ça, c'était vraiment les deux sujets. Je pense que le sujet Lorient pour le PSG était notamment lié aussi à l'atterrissage de l'avion du PSG qui est prévu à Lorient.
D'ailleurs, l'Arabie a accueilli France-Kazakhstan en foot féminin il y a peu de temps. Donc, voilà, on est capable aussi d'accueillir des rencontres internationales. Ça pose pas de souci. Une question de Xavier Griveaux, notre correspondant, sur justement ce match et les éventuelles pertes en billetterie.
Oui, Président, je crois que vous avez chiffré les pertes financières déjà que vont amener ces restrictions, avec notamment peut-être le village VIP, les prestations VIP qui vont pas pouvoir avoir lieu. Est-ce que vous avez chiffré déjà tout ça?
Oui, le total est estimé donc en manque à gagner à 250 000 euros, puisqu'on a la partie, je dirais, sécurité liée au PSG, donc qui est en termes de coûts, puisqu'on a 164 stadiers qui sont en face des 250 parisiens, donc c'est quand même relativement, comment dirais-je, conséquent. On a donc le fait qu'on ait sacrifié une tribune, et puis vient s'ajouter la jauge où en fait encore 2000 places donc sont annulées, annulation également des buvettes, et on a encore une discussion par rapport au chapiteau VIP. On devrait avoir la réponse dans la soirée ou dans la matinée par rapport au fait de recevoir en fait les VIP en restauration assise, sachant qu'on est dans l'enceinte du stade, donc il y a des précisions à obtenir au niveau du décret qui sera émis, donc voilà, donc on a encore des incertitudes, mais le total est bien à moins qu'à gagner 250 000 euros.
Un mot sur la situation sportive de Vannes, avec voilà, 8e de National 2, un club qui revient après être descendu jusqu'au niveau région. Xavier en parlait, on a connu cette finale de Coupe de la Ligue, le passage 3 saisons pro avec notamment Stéphane Lemignan, voilà, toutes ces équipes, Ghislain Gimbert, l'attaquant. Et Xavier, une question pour le président Maxime Rey, il y a un partenariat avec City, mais vous n'êtes pas au City Group.
Oui, exactement, voilà, mais... Oui, Président. Non, juste, faites-nous peut-être un petit élément de contexte. On est au mois de décembre. Vous avez signé cet accord avec le City Football Group au mois de février. Qu'est-ce que concrètement, sur les 10 premiers mois, ça a pu apporter à Vannes?
Alors, le Covid a énormément limité donc l'exécution de ce partenariat, puisque c'est clairement un partenariat de prestige, mais qui a une vraie substance, hein, puisque les sujets sont notamment la possibilité de partager un peu l'expérience City. Donc pour les sponsors, il y a déjà eu un déplacement qui a été effectué donc pour le match Manchester City Bruges. Donc voilà, vraiment en VIP, avec l'occasion de visiter la City Academy. Donc c'était vraiment une expérience assez exceptionnelle, l'accès à la pelouse avant le match. Voilà, les sponsors ont énormément apprécié. Il y a aussi une possibilité pour les éducateurs de visiter la City Academy et essayer de prendre de l'expérience. Donc clairement, on n'est pas sur un partenariat opérationnel comme on peut l'avoir avec le FC Lorient, avec, je dirais, une coordination quasiment hebdomadaire. Mais on a la possibilité de montrer aux acteurs du club, en fait, ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc c'est vraiment pour moi un partenariat de prestige, avec un partenariat qui est articulé autour de visites. Voilà, également City devait venir. Maintenant, le Covid a énormément forcément ralenti ces aspects-là, puisque le partenariat a été signé dès la saison dernière, et on n'a pas pu faire, notamment la première saison, des déplacements. Donc le premier déplacement a eu lieu en novembre 2021. Voilà, donc ça a été une expérience exceptionnelle pour les gens qui tournent autour du club.
Merci beaucoup Maxime Rey, le président du club de Vannes. Réception du Paris Saint-Germain le 3 janvier prochain, lundi à 21h. On vous souhaite de bonnes choses pour ce match, et pourquoi pas un exploit. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Manu. Demain, malheureusement, je ne serai pas là. Tu seras avec Simon Dutin pour le RMC Football Show. Mais tu verras, je ne serai pas loin. Il y a l'All-Star Game de basket. Je serai à Bercy pour vous faire vivre l'événement dès 19h. 19h. Tout de suite, l'After Foot, Nicolas Paolorsi. Je vous laisse en très bonne compagnie avec un bon programme.
Salut Arnaud. Eh oui, un très beau programme. On va parler des jauges comme vous. Tu sais Arnaud que la Ligue 1 n'a jamais été aussi attractive que sur ce début de saison. Tu commandes des matchs. Eh ben, on va se demander si enfin
je
cette Ligue 1.
Reims, donc bon, hein.
Elle est séduisante. Oui. C'est pas faux. Et puis à 22h, les drôles de dames vont venir avec nous pour nous donner leur coup de cœur de ce début de saison. Bref, il y a plein de belles choses dans cet after jusqu'à minuit avec Florent Gautreau et Sébastien Piocelle.
À demain pour le RMC Football Show avec Manu Amoros. Tout de suite l'after.
RMC Football Show.